du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette histoire un peu rocambolesque que les Sadducéens viennent soumettre au Seigneur est exactement la manière dont il ne faut pas procéder pour comprendre quelque chose à l'Écriture. Mais notre Seigneur est bon et grand, et malgré leurs bêtises, malgré leurs moqueries, voire le côté un peu égrillard de leur cas pratique, notre Seigneur va trouver une fois de plus à manifester la gloire de Dieu dans un enseignement divin qui nous est nécessaire pour vivre. Je dis pour vivre parce que la question, c'est la question de la mort et de la résurrection, une question essentielle pour nous. Voyons d'abord quels sont les arguments contre la résurrection et ce qu'on peut leur opposer. Et d'autre part, voyons quelle est la vie des ressuscités. Tout d'abord, voyons ce que l'on peut penser contre la résurrection. Il y a à la fois des croyances et des raisons. D'abord, des croyances. Oh, les croyances contre la résurrection, dont les Sadducéens font partie, elles sont multiples. Si je prends les deux extrêmes de ceux qui pensent qu'une fois qu'on est mort, on ne ressuscite pas, il y a ceux soit qui pensent que nous sommes jetés dans le néant, que c'est fini, c'est foutu, il n'y a plus rien. Alors, pour penser cela, il faut avoir résolu la question de Dieu et être certain que Dieu n'existe pas. C'est très déraisonnable. Bon, mais c'est une option philosophique, et ce n'est pas la nôtre. À l'autre extrême, il y a ceux qui pensent que nous sommes réutilisés sans cesse. Hein ? C'est la Maya chez les hindous, dans l'hindouisme, où il y a un cycle dit infernal, d'ailleurs, parce que c'est insupportable de recommencer tout à chaque fois, des réincarnations. Mais n'oubliez pas que même dans ce système de pensée, le but in fine, c'est de sortir de ce cycle et de ne plus exister. Donc, que l'on le prenne soit par un athéisme, soit par une foi en la matière qui doit disparaître, d'une manière comme d'une autre, c'est le néant. Alors non, ce n'est pas ce que nous proclamons, car notre âme personnelle, voulue par Dieu, n'est pas de nature à connaître la mort éternelle. Je pèse chacun de mes mots, parce que pourtant, et je vais le voir dans les arguments de la raison, la mort fait partie de notre nature. Oui, nous avons été créés à l'image de Dieu, et à son image, lui qui est éternel, nous avons été créés pour l'éternité. Voilà comment Dieu a conçu mon âme, voilà comment il l'a déposée dans ce corps, voilà comment il la soutient, voilà comment j'en jouirai éternellement. Mais il y a aussi parfois des raisons pour la mort. La raison la plus essentielle de penser que la mort est la mort, qu'il n'y a plus rien après. Alors, je ne vous parle pas de ceux qui font illusion, hein. Vous avez peut-être déjà entendu, parce qu'il me met très très en colère en général, mais ce texte que l'on prête à Saint-Augustin, qui n'est pas de Saint-Augustin, mais d'un chanoine de Saint-Augustin du XIIe siècle, qui dit « La mort n'est rien, je suis juste de l'autre côté du mur ». C'est une idiotie monstre, car la mort est quelque chose. Si la mort n'était rien, on ne serait pas enterré. Si la mort n'était rien... n'aurait pas besoin de pleurer, on n'aurait pas besoin de s'en inquiéter. Or, la mort, c'est quelque chose. La mort, c'est terrible. Elle nous frappe. Et vous allez me dire, si vous êtes très, très terre à terre, qu'elle fait partie de notre nature humaine. Car tout ce qui est humain, tout ce qui est matériel, est passible et va disparaître un jour. Même le monde. Scientifiques même finissent par le comprendre que la matière n'est pas éternelle. Alors, me direz-vous, puisque c'est naturel, on devait mourir. Eh bien non, parce que Dieu, qui a mis dans notre âme, qui a mis dans notre corps mortel, dans notre chair mortelle, passible, matérielle, une âme éternelle, avait fait en sorte qu'elle puisse soutenir notre corps jusqu'en Dieu sans connaître la mort. Oui, la mort est entrée dans le monde par le fruit du péché. La mort est une distorsion d'un bien, c'est-à-dire une privation d'être, une privation de vie, et elle n'est pas dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi, à chaque enterrement que nous vivons, quel que soit l'âge de celui qui meurt, bien sûr, quand c'est un enfant, quand c'est quelqu'un d'assez jeune, on est bouleversé, mais quand c'est quelqu'un de très vieux, eh bien, malgré tout, alors qu'on devrait se résigner en disant « c'est naturel ». Il y a quelque chose en nous qui nous dit « c'est pas normal, on n'a pas été fait pour ça ». Et effectivement, nous n'avons pas été fait pour ça, la finalité, et c'est une des preuves du côté irrationnel de ceux qui pensent la mort comme normale, notre finalité, si nous en avons une, c'est-à-dire si nous pensons que nous ne sommes pas le fruit du hasard, c'est difficile de penser que nous sommes le fruit du hasard, parce que nous courrions dans tous les sens sans raison. Alors certains se demandent parfois si leur père, ce n'est pas le hasard, mais même pas, ils sont déréglés. Mais tout homme sensé vit pour quelque chose, dans un ordre particulier, bâtit une vie, et sait qu'il bâtit en vue d'une fin. Et c'est parce que la matière a une fin, que même la matière a une fin, même les animaux ont une fin, que nous savons qu'il y a quelque chose qui va au-delà, c'est-à-dire qu'il y a une finalité et que ce n'est pas un terminus que la mort. Voilà, vite fait, bien fait, mais un peu rapide, je vous le concède, les arguments pour ou en défaveur de la résurrection et pour la mort. Mais me diriez-vous, Pourquoi les Sadducéens ne croient pas ? Ils sont pourtant des croyants, ce sont des juifs pieux, mais voilà, ils ne connaissent que les premiers livres de la Torah et ils ne connaissent pas les derniers livres de Daniel et d'Habacuc, les livres où il est très clairement parlé de la résurrection, et notamment le livre des martyrs d'Israël que nous venons d'entendre, où ses frères préfèrent mourir plutôt que de déshonorer Dieu, car ils savent que leur fin c'est Dieu et que même s'ils aiment cette vie, il vaut mieux vivre éternellement que de mourir éternellement. Alors, quelle est cette résurrection ? De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un relèvement. C'est ce que le mot en grec veut dire, résurrection, c'est l'anastasis, c'est se relever d'entre les morts. C'est ce que le Christ a vécu. Là où notre chef est passé, nous passerons, si nous sommes plongés dans le Christ, et c'est notre baptême, nous vivrons avec lui en passant par là où il est passé, c'est-à-dire la mort et la résurrection. Oui, mon âme immortelle connaîtra Dieu également d'une manière différente après ma mort. Mais nous allons plus loin. Nous allons jusqu'à dire, et nous allons le dire dans un instant dans le credo, que nous croyons en la résurrection de la chair. C'est pour ça que les chrétiens, au jour de la mort, font ce geste complètement fou pour la plupart des croyants du monde, c'est qu'ils apportent, ou qu'ils amènent, je ne sais plus comment il faut dire, le corps de leur défunt au milieu de l'Église. C'est une folie pour beaucoup de croyants, tous ceux qui pensent que après la mort, bon, on prie pour les gens, mais c'est fini, pour le corps. Eh bien, non, nous sommes persuadés que là où est passée l'âme, quand elle retrouvera sa splendeur originelle, qu'elle sera justifiée par Dieu, sanctifiée, elle sera capable de nouveau de porter quelque chose de ce corps. Oh, comment sera ce corps glorieux ? Je n'en sais pas plus que je ne peux en dire. C'est le Christ, ressuscité, apparaissant plus de 13 fois à ses disciples, qui nous indique comment pourrait être ce corps, un vrai corps, un corps qui n'a plus les mêmes natures, tout à fait les mêmes qualités que celles les nôtres. Il ne semble être tenu ni par le lieu ni par l'espace, il se rend présent à tout instant. Mais un vrai corps malgré tout, plusieurs fois il demande à manger, le Christ ressuscité. Plusieurs fois il montre ses mains transpercées, c'est bien lui, et il se laisse toucher. Comment notre esprit pourra réassumer quelque chose de notre corps ? Parce que c'est dans mon corps que mon âme aura vécu. Et comme le dit Job déjà, c'est avec mes yeux de chair que je verrai Dieu. Notre croyance en la résurrection des corps, qui va bien au-delà d'une simple reconstitution cellulaire, c'est une recréation, c'est l'Esprit de Dieu qui a créé toute chose. Dans notre résurrection, il recréera en nous quelque chose de nous, de ce corps mortel, qui deviendra alors soutenu par notre âme enfin juste, enfin sainte, qui deviendra alors immortelle. Voilà pourquoi, dans cet autre monde, qui n'est en fait que la continuation d'une autre, nous vivrons différemment. Il ne faut pas mal comprendre la réponse que le Seigneur fait à ceux qui lui posent cette chose trappe, alors cette femme, de qui sera-t-elle le mari ? Sous-entendu, qui connaîtra-t-elle ? Évidemment, il leur dit, on ne prend plus mari et femme. Quand le nombre des élus sera fixé en Dieu, il n'y aura plus de génération. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de lien. Quand nous sommes unis les uns aux autres, par la charité, par l'amour, nous le serons éternellement. Il serait ridicule de penser, par exemple, que des parents, une fois morts, eh bien, ne reverront plus jamais leurs enfants. Ben, bien sûr, on n'engendrera plus, mais ceux qui ont été unis à vous pendant toute une vie le seront éternellement. C'est un lien de charité. Et évidemment que les époux, unis l'un à l'autre, si bien entendu la génération disparaît, si bien entendu les obligations juridiques de cette vie, d'un veuf ou d'une veuve, disparaissent vis-à-vis de son époux qui n'est, ou de son épouse qui n'est plus présent ici-bas, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de lien dans l'éternité. Ce n'est pas ce que dit le Seigneur. Il dit simplement qu'on ne prendra plus femme et époux. Ce n'est plus la même vie, c'est une union en Dieu, une union spirituelle qui nous assumera tout entier et qui nous fera jouir de sa présence. Voilà le message urgent que nous avons à transmettre au monde, calmement comme c'est toujours notre habitude, la bienheureuse espérance qui est la nôtre, que mon âme, créée par Dieu pour lui, a cette capacité même de recevoir même mon corps. Voilà pourquoi il a un prix infini, voilà pourquoi je l'aime et le respecte, mais en vue de Dieu, en vue de le garder dans la vie éternelle. Puissions-nous avoir le courage d'apporter au monde cette bonne nouvelle qu'il ignore, cette tristesse perpétuelle qui envahit le monde, car il vient de découvrir, il n'y a pas si longtemps par la science, qu'il n'est pas éternel. Alors, libérons ce monde de sa tristesse et de sa désespérance en lui annonçant qu'il est sauvé et que chacune des âmes que Dieu s'est créée verra Dieu pour autant qu'elle le veuille et qu'elle y coopère, et que même dans mon corps, je verrai Dieu. Amen.